Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre sur l'actualité internationale. On retrouve avec plaisir Yamine à la technique. Bonjour Yamine, et merci. Et puis Habib qui est là, à mes côtés, pour me soutenir et puis pour intervenir quand il en a envie nécessairement. La semaine dernière, je vous avais annoncé que je développerais sur un document qui me paraît de la plus haute importance. Je l'ai cité, j'ai donné quelques éclairages, mais ça mérite qu'on y passe du temps et je vais commencer par ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que le jour, ou à l'occasion de, parce que je vais revenir sur cette question-là, le jour de l'inauguration, de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, donc qui se poursuivent jusqu'à la fin de cette semaine, les délégations russes et la délégation chinoise, la Chine qui est accueillante, ont publié une déclaration commune des deux pays, qui est une déclaration qui tient sur une dizaine de pages écrites, qui est donc beaucoup plus qu'un communiqué classique comme il y en a après les rencontres internationales où chacun dit quelque chose, après les services de presse font une petite page où il y a l'essentiel. Ben, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout une déclaration de circonstance. C'est manifestement, et ça n'a pas été du tout improvisé, ils n'ont pas écrit ça sur un coin de table. Vous savez, assez souvent, dans les rencontres internationales, vous avez peut-être entendu le mot, il y a des gens qui sont là autour des chefs d'État, des chefs de gouvernement, et qui sont chargés, dans les 5 dernières minutes, de rédiger un communiqué pour la presse. On appelle ça les Sherpas, dans les grandes rencontres internationales. Et donc, ils vont mettre bon, ce qui passe, ce qui est un peu dans le ton, et puis voilà, ça va s'arrêter là. Là, il s'agit de tout autre chose, et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, il s'agit d'un document qui a été préparé par les deux États, et qui est ambitieux. Qui est ambitieux parce que vous allez voir, je vais en faire le tour devant vous, il ne s'agit pas simplement d'une déclaration de circonstance. Bon, l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques était évidemment très propice, puisque d'une part, ça a été l'occasion de rencontrer d'abord beaucoup d'autres chefs d'État et de gouvernement qui étaient là, et puis de faire rencontrer les deux chefs d'État dans une ambiance qui est celle d'une ouverture de Jeux Olympiques, donc qui n'est pas une ambiance conflictuelle. Les Jeux Olympiques, on a passé à Pékin beaucoup de temps à expliquer qu'il s'agissait d'une compétition sportive et que les considérations politiques qui se greffaient là-dessus, je pense par exemple au boycott des délégations politiques des États-Unis, de la Grande-Bretagne et tout, n'avaient pas leur place. Et effectivement, elles n'ont pas eu leur place. Il y a eu beaucoup donc, de représentants de différents pays qui ont assisté aux cérémonies d'ouverture. Et puis, il y a des équipes de tous les pays du monde. Et il n'y a pas eu d'interdiction à aucun athlète, d'où que ce soit, de ne pas participer. Ce qui a permis d'ailleurs à quantité de pays, y compris à des citoyens des États-Unis, très forts dans leur domaine, d'avoir des médailles d'or. D'autres en ont eu, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous pouvez le trouver facilement. Donc ça voulait garder, et ça garde jusqu'à aujourd'hui, parce que je regarde un petit peu au jour le jour ce qui s'y passe, un caractère de réunion de sportifs de très très haut niveau, dans des conditions d'organisation matérielle qui sont considérées par tous comme bonnes, voire très bonnes. Et donc, je reviens à ce texte. Ce texte, donc, n'est pas un texte de circonstance qui arriverait là parce qu'il faut dire quelque chose, les chefs d'État se rencontrent, ils ont bavardé. Non, ce n'est pas du tout un bavardage. C'est une espèce de manifeste pour un siècle à venir. Alors, je dis le siècle parce qu'effectivement, les ambitions sont très, très importantes et elles s'expriment à un moment un peu particulier. Et c'est par là que le document commence en disant « Nous sommes dans une période de tension internationale. » On en parle assez à la radio, sur cette radio chaque semaine à travers nos émissions. Mais il faut aller ouvrir un chemin pour aller vers quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, c'est ni plus ni moins qu'une espèce d'architecture internationale nouvelle, avec des principes, des objectifs qui sont rappelés, qui constituent la première partie du document. C'est-à-dire, il est affirmé que l'humanité a des difficultés, et qu'en particulier la situation épidémique ou pandémique ne les a pas toutes améliorées, qu'au contraire, on le sait, ça a déjà été dit à cette antenne, ça a augmenté les inégalités, ça a rejeté plusieurs centaines de millions de personnes dans la pauvreté. Tout ça, c'est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui du Covid. C'est connu, et puis il s'est greffé là-dessus toute une série de tensions internationales. Mais ce qu'ils expliquent dès le début, c'est qu'ils disent « dans cette période difficile de l'humanité », je lis leur phrase, « certains acteurs représentant une minorité à l'échelle internationale continue de préconiser des approches unilatérales pour aborder les questions internationales et recourir à la force. Voilà. Et donc, tout est contenu, le projet, il est contenu dans cette phrase, c'est-à-dire le refus commun de deux pays importants, la Russie et la Chine, de dire qu'ils n'acceptent pas que certains pays, alors on voit tout à fait qui est visé, représentant une minorité à l'échelle internationale, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, continuent à recourir à la force et à s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États, violant leurs droits, leurs intérêts légitimes, voilà, et incitent à la confrontation. Et il ajoute, et c'est là que ça annonce la suite, ils entravent ainsi le développement et le progrès de l'humanité contre l'opposition de la communauté internationale. Et là, il renverse ce concept de communauté internationale qui a été fabriqué en Occident pour dire quand l'Occident parle, on considère que c'est la communauté internationale. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? La communauté internationale, c'est nous qui allons la regrouper et c'est nous qui lui montrons son chemin et pas vous, minoritaires. Ils insistent bien. Minoritaire. 300 millions d'habitants aux États-Unis, 400 millions dans l'Europe, au maximum. Tout ça, ça fait 700 millions sur 7 milliards et demi, voire 8. Effectivement, c'est la réalité des choses. Et donc, ils mettent le doigt là-dessus pour bien montrer dans quelle situation nous nous trouvons. Et cette volonté donc de donner une voix à la communauté internationale, la vraie communauté internationale de toutes les nations, la majorité de la population mondiale, elle doit se faire, et il le pose comme principe, dans l'architecture des Nations Unies, avec une véritable multipolarité, avec l'ONU et son Conseil de sécurité, jouant un rôle central de coordination pour promouvoir des relations internationales plus démocratiques, assurer la paix, la stabilité et le développement durable dans le monde entier. Il s'agit bien d'un texte programme. C'est tout à fait clair. Alors ensuite, il commence par une première partie où il explique quelles sont les règles à observer. Alors, on a parlé de stabilité. Il commence par la question de la démocratie.
Et la justice.
Voilà. Alors, la question de la démocratie, il la pose dans des termes tout à fait corrects, sans incriminer ceux qui s'en servent, sans les incriminer de façon directe, en disant « La démocratie, c'est une façon de donner la parole au peuple, mais cette façon de donner la parole au peuple n'est pas fixée une seule fois pour toutes dans une série de pays. Il n'y a pas une seule méthode pour donner la parole au peuple. Chaque peuple, chaque pays doit s'organiser pour donner la parole à son peuple selon des règles qu'il se fixe lui-même. » Et aucun pays, et c'est ça c'est important, et on voit bien qui est visé, aucun pays n'a le droit de dire aux autres, vous ce que vous faites, ce n'est pas une procédure démocratique. Dès l'instant où les citoyens d'un pays se satisfont de la façon dont les décisions se prennent, et se satisfont surtout des résultats de l'exercice démocratique et des résultats de la politique du gouvernement, ce n'est pas un État tiers de dire que ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ça, c'est tout à fait important. Et ils insistent, j'explique avec leur vocabulaire, une nation peut choisir les formes et les méthodes de mise en œuvre de la démocratie qui conviendraient le mieux à son État particulier en fonction de son système social et politique, de son contexte historique, de ses traditions et de ses caractéristiques culturelles uniques. Il appartient seulement au peuple du pays de décider si son État est démocratique.
C'est vrai.
Sous-entendu, si le pays n'est pas, si la population du pays considère que l'État n'est pas démocratique, c'est à la population de ce pays de renverser ou de l'obliger à changer de politique. C'est de toute façon pas quelqu'un de l'extérieur qui va dire ce qui a été fait là n'est pas démocratique. C'est le peuple lui-même qui. Alors, les peuples aujourd'hui, ça, ils le disent pas, mais ça va de soi qu'on est quand même dans une période où la majorité de la population mondiale sait lire et écrire. On n'est pas il y a 100 ans, on n'est même pas il y a 50 ans. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. La majorité de la population mondiale, aujourd'hui, sait lire et écrire. Bon. C'est très, très différent comme approche. Ça veut dire approche de la lecture d'un texte, d'approche du droit, compréhension des médias, comme lecture de la presse ou regarder des émissions télévisées. Il y a une capacité de s'intégrer, de prendre part au débat démocratique qui n'existait pas avant, quand on avait affaire à une minorité qui savait lire et écrire et une majorité qui ne faisait que répéter ce qu'on lui disait de dire. Donc ça aussi, ils n'insistent pas là-dessus, mais c'est tout
Moi,
à fait...
Je dirais même la démocratie, C'est Habib. Chaque peuple a sa culture.
Mais bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Tout à fait.
De là, voilà.
Tout à fait. Hein? Parce qu'il y a effectivement des modes de vie villageoise, de vie communautaire, de système de prise de décision. Il y a partout des systèmes de prise de décision, parce qu'il faut répartir l'eau pour arroser les champs, il faut répartir les charges pour entretenir les routes et les chemins, tout ça. Il y a du débat partout.
Bon.
Et donc, il faut que chacun trouve ses façons de discuter.
On n'a pas imposé la démocratie à d'autres. Exactement.
Tout à fait. Alors, et ils ajoutent, pour bien expliquer ce que je viens de dire, les tentatives de certains États d'imposer leurs propres normes démocratiques, ça c'est entre guillemets, à d'autres pays, de monopoliser le droit d'évaluer le niveau de respect des critères démocratiques, de tracer des lignes de démarcation fondées sur l'idéologie, y compris en établissant des blocs exclusifs et des alliances de complaisance, ne sont rien d'autre que du mépris de la démocratie et vont à l'encontre de l'esprit et des vraies valeurs de la démocratie. De telles tentatives d'hégémonie constituent de graves menaces pour la paix et la stabilité mondiale et compromettent la stabilité de l'ordre mondial. Alors effectivement, il y a d'autres idées. Un pays tiers n'a pas à juger, et surtout il peut exprimer les opinions qu'il veut sur la façon dont un autre se comporte, mais il n'a pas à intervenir et à dire « vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme ça ». Ça, c'est le peuple concerné qui reste juge et donc souverain. Ça c'est tout à fait important. Et après donc voilà, c'est prémices étant fondées, donc ils sont des prémices au niveau des principes de gouvernement et des principes de respect mutuel des États et du respect par chacun État de la façon dont tout autre État décide de son avenir et dont il organise la vie de sa population et l'expression de sa population, on arrive à un certain nombre d'objectifs que les partis, comme ils disent, il s'agit bien d'une espèce de contrat passé entre la Chine populaire et la Fédération russe, ils attaquent un certain nombre d'objectifs concrets. D'abord, dans la première partie, ils disent où nous nous situons-nous, nous deux, hein, puisqu'on est tous les deux là, on s'exprime sur un projet général pour la totalité de la communauté humaine, ils insistent beaucoup sur le terme, où sommes-nous, nous, pour commencer, d'où parlons-nous, on dirait. Ben, nous parlons depuis l'Eurasie. Nous sommes le cœur de l'Eurasie, le poids lourd de l'Eurasie. On va pratiquement entre la Russie depuis l'Atlantique, la mer Baltique, disons, jusqu'à l'autre extrémité du continent. Donc on est en capacité de dire nous sommes représentatifs assez largement de l'Eurasie. Et ils ajoutent que ça associe en fait deux structures existantes ou deux projets existants. Le projet des routes de la soie chinois, qui est un projet donc de transversalité, de traverser la totalité du continent eurasiatique pour les hommes, les marchandises, les vins, les informations. Et puis l'autre projet qui vient plutôt du côté russe, qui est le projet de l'Union économique eurasienne, qui est une zone de libre-échange qui est en cours de constitution sur la base de l'appartenance à ce continent eurasiatique. Et ils y ajoutent que l'Arctique, donc la voie nord pour circuler au nord de la Russie, fait partie aussi de ce continent eurasiatique et dans lequel il compte bien sûr ces deux aspects, les routes de la soie et l'Union économique eurasienne et l'Arctique. Et sur ce troisième domaine, ils vont bien travailler ensemble. Ils sont donc les initiateurs et les promoteurs de ce continent eurasiatique. Et puis ils parlent de climat, bien entendu, comme problème général. Et il rappelle, ce qui a été peu dit, parce qu'effectivement, il n'y a pas de quoi en être fier, que pour la lutte contre le réchauffement climatique, vous savez, la lutte contre le réchauffement climatique, ça suppose souvent de gros moyens financiers. C'est-à-dire, quand vous décidez de changer vos centrales électriques ou des choses comme ça, effectivement, ce n'est pas comme changer de voiture et d'acheter une voiture hybride ou à moteur électrique, ça coûte cher. Et il rappelle que dans une des COP, je ne sais plus laquelle, les pays développés, donc qui ont l'argent, avait promis de fournir 100 milliards de dollars de financement climatique aux États les moins riches. Et ils disent, ben voilà, on ne les a pas vus, les 100 milliards de dollars. Donc vous pouvez toujours montrer du doigt tel pays qui n'a pas fait d'effort contre le réchauffement climatique, mais vous aviez dit que vous les aideriez. Alors, il rappelle pas, d'ailleurs, mais je rappelle, moi, que ce sont les pays développés qui sont aujourd'hui les plus polluants et les plus gros émetteurs de CO2. C'est l'évidence sûr, même. Et donc, ça, c'est l'aspect climatique. Alors on en arrive ensuite à toute une série de domaines de politique internationale. Donc ils se situent là où ils sont, avec les relations qu'ils ont, leurs outils, donc l'Union économique eurasiatique, les routes de la soie, et puis les objectifs, donc sur le climat, sur le redémarrage de l'économie internationale après l'épidémie, car chacun sait que, Chine mise à part, la plupart des pays ont souffert dans leur croissance économique de la pandémie et on n'est pas au bout. On ne peut pas dire aujourd'hui que quelqu'un en est sorti. Mais toujours est-il que la Chine s'en est sortie beaucoup mieux que les autres. Et on en arrive ensuite à toute une série d'aspects internationaux sur lesquels je vais m'arrêter. La Chine, alors la partie russe, alors que, bon, il y a quand même un minimum de rappel des données pour ceux qui liront et écouteront cette déclaration. La partie russe réaffirme son soutien au principe d'une seule Chine et confirme que Taïwan est une partie inaliénable de la Chine et s'oppose à toute forme d'indépendance de Taïwan. Bon, à bon entendeur, salut, j'insiste pas plus là-dessus. Ensuite, il parle de... Alors ça, c'est très intéressant, de lutte contre le terrorisme. Et alors là, on sent très très bien une allusion en disant « Il faudrait un front mondial unique de lutte contre le terrorisme avec l'ONU jouant un pôle central parce que ce qui cache derrière ça, ils ne vont pas beaucoup dans le détail, mais la politisation des questions de lutte contre le terrorisme et leur utilisation comme instrument politique de deux poids, deux mesures, qu'on a de la pratique de l'ingérence dans les affaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à certains moments, on va envoyer une armée pour s'en prendre à des terroristes, qu'à d'autres moments, on va favoriser des terroristes. C'est ça qu'ils appellent deux poids, deux mesures.
C'est ce qui s'est passé au Moyen-Orient.
Voilà, c'est ce qui se passe exactement au Moyen-Orient. Bon, donc ils rappellent bien que là-dessus, ils sont tout à fait d'accord, mais qu'il devrait y avoir une position commune. Il y a des terrorismes. Aucun État officiellement démocratique qui se respecte ne peut accepter la pratique du terrorisme. Bon. Alors, il faut, puisque tout le monde est d'accord sur ce principe, il faut que tout le monde respecte ce principe. C'est ça qu'ils mettent en avant. Or, l'expérience montre, j'allais dire, que ce n'est pas tout à fait le cas, et qu'il y a des gens et des États qui utilisent le terrorisme pour des fins qui leur sont propres. Ils en viennent ensuite à la question qui nous importe aussi, qui est celle de l'OTAN. Et c'est tout à fait clair, puis je reparlerai de l'Ukraine tout à l'heure, les partis s'opposent à un élargissement de l'OTAN et appellent l'Alliance de l'Atlantique Nord à abandonner ses approches idéologisées de la guerre froide, à respecter la souveraineté, la sécurité et les intérêts des autres pays, la diversité de leurs origines civilisationnelles, culturelles et historiques, et à adopter une attitude juste et objective à l'égard du développement pacifique des autres États. Alors je reviens là-dessus parce que donc il y a l'OTAN qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et puis il y a le traité lui-même. Et donc on peut très bien dire l'Alliance Atlantique, vous pouvez avoir des bonnes relations entre vous, vous entendez. Élargir l'OTAN, c'est tout autre chose. Et approche idéologisée de la guerre froide, l'OTAN a été mise en œuvre pour effectivement mettre un rempart contre les soi-disant volontés soviétiques de gouverner le monde, ce qui n'a jamais été démontré. Bon, donc l'OTAN ne doit pas aller plus loin que ça.
Ils n'ont pas mis des bases partout. Hein.
Voilà, exactement. Les partis s'opposent à la formation de structures de blocs fermés et de camps opposés dans la région Pacifique et restent très vigilants quant à l'impact négatif de la stratégie indo-pacifique des États-Unis sur la paix et la stabilité dans la région. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je rappelle, parce que là, c'est un mot couvert, mais la stratégie indo-pacifique des États-Unis, ça va exactement dans le sens contraire. Ça consiste à rassembler, comme du temps de la guerre froide, un camp anti-chinois et anti-russe, dans lequel on fait rentrer quasiment de force le Japon, parce qu'il n'a pas la force politique de s'y opposer. Je rappelle qu'il y a encore au Japon des troupes américaines, des bombes atomiques américaines, etc. Et que donc le Japon est un peu en difficulté pour s'exprimer. Mais ça implique aussi, évidemment, on l'a vu, et on en reparlera, l'Australie, et ça implique l'Inde. Alors l'Inde qui est dans une situation intermédiaire, qui est donc d'un côté embringuée, j'allais dire, dans cette organisation d'un camp pro-américain dans la partie asiatique, mais qui en même temps est rentrée maintenant à l'organisation de coopération de Shanghai, ne peut pas avoir de relations avec son grand voisin chinois, est entourée de pays qui ont des relations très très étroites avec la Chine et son économie. Et donc l'Inde est un peu, peut-être pas un tournant, mais dans une position un peu instable, c'est-à-dire un peu contrainte par une espèce d'opposition atavique à la Chine, dont elle est jalouse, évidemment, Alors pourquoi, je m'exprime pas méchamment, mais pourquoi l'Inde est jalouse de la Chine ? Parce que à population égale, puisqu'on en est à peu de choses près au même nombre, à population égale, ce qu'on appelle en Occident la plus grande démocratie du monde, façon de dire, la Chine n'en est pas une d'ailleurs, hein, vous avez compris ça, a des performances économiques, sociales, qui sont pas très très présentables. Alors, à preuve, la grève des paysans indiens qui a eu lieu l'année dernière. Ouais. Voilà. Et donc, alors, en plus, avec cette particularité que l'Inde étant un État fédéral, il y a certains membres de la fédération qui ont des politiques sociales avancées, progressistes, et puis il y en a qui sont très très retardataires. D'accord. Et donc, l'Inde a des difficultés et a un retard économique évident par rapport à la Chine. Ça, c'est tout à fait clair.
Bon. Bien loin derrière la Chine.
Bien loin, tout à fait, bien loin. Ensuite, donc ça c'est pour la question de l'OTAN et ce qu'on appelle la stratégie indo-pacifique, qui consiste effectivement, ils le disent, à refaire un bloc, donc à rejouer un mode guerre froide dans une autre région du monde, hein, puisqu'il y a nos amis, il y a nos ennemis, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Or c'est exactement à contrario de l'exposé des motifs de la déclaration commune. Ensuite, ils en viennent à la question du nucléaire. Alors, je l'ai mentionné, je crois, dans une émission, mais les partis se félicitent de la déclaration conjointe des dirigeants de 5 États dotés d'armes nucléaires sur la prévention de la guerre nucléaire et la prévention de la course aux armements. Et estiment, écoutez bien, et estiment, ça c'est les deux, c'est pas les 5, et estiment que tous les États dotés d'armes nucléaires devraient abandonner la mentalité de la guerre froide et les jeux à somme nulle, réduire le rôle des armes nucléaires dans leur politique de sécurité nationale, retirer les armes nucléaires déployées à l'étranger, éliminer le développement sans restriction du système mondial de défense antimissile balistique. Alors ça va très très loin. Alors ça, c'est pas clair. Enfin si, c'est parfaitement clair. Ça veut dire, les bombes atomiques, à la rigueur, ceux qui en ont, les ont, c'est pour eux. Donc c'est dans un cadre de défense, de riposte à une agression. Par contre, il faut les retirer de tous les territoires étrangers. Alors, vous voyez qui est visé. Vous voyez évidemment qui est visé. La Russie n'a pas de bombes atomiques. Il n'y a pas de bombes atomiques russes dans aucun territoire qui ne soit pas russe. Il n'y a pas de bombe atomique chinoise dans aucun pays qui n'est pas la Chine. Il n'y a pas, que je sache non plus, même de bombe atomique française en dehors de la France et de ses colonies. Je ne sais même pas si dans les colonies il y en a. Bon. Sur la Grande-Bretagne, je ne me prononcerai pas, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il n'y en a pas non plus. Donc il s'agit bien d'une attaque très directe, d'une critique très directe des États-Unis en disant « Vous avez signé cette déclaration en disant qu'il fallait qu'on se calme sur les armes nucléaires ». Le premier geste à faire, et ça vous êtes seul à pouvoir le faire, et ce serait une démonstration flagrante de votre bonne volonté, retirez toutes les bombes atomiques, les vôtres, qui sont dans des pays qui n'en veulent pas. Enfin, qui n'en veulent pas. Je pense à l'Italie en particulier, où il y a beaucoup. Et à la Turquie. Mais je pense à l'Italie en particulier, parce qu'il y a beaucoup de bombes atomiques, et les plus avancées, avec les vecteurs les plus avancés sur le territoire de la République italienne. Et il y a en Italie, ce qui n'est peut-être pas le cas en Turquie, un mouvement d'opposition en disant, en fait, nous ne voulons pas de ça chez nous. Hein. En plus, dans la constitution italienne, qui hélas n'est pas très très bien respectée, il est dit que l'Italie ne fera jamais la guerre. Alors c'est bien joli de dire je ne ferai jamais la guerre, mais en fait, il y a sur mon territoire des engins de guerre les plus puissants du monde, et si jamais ils devaient fonctionner, j'aurais droit à des ripostes sur mon sol, que je n'aurais pas attendu. Donc ça, c'est très important, ce passage-là, sur le nucléaire. Ensuite, vous voyez que tous les sujets ont été abordés. Alors, il parle ensuite du traité de non-prolifération. Là, il s'agissait des 5 États qui ont l'arme nucléaire. Il parle de la non-prolifération en disant, nous, beaucoup d'États du monde, la majorité d'États du monde, sont signataires du traité de non-prolifération, y compris les 5 détenteurs officiels, je souligne, de l'arme nucléaire. Mais il faut que la non-prolifération, ça ait un sens. C'est-à-dire qu'il faut que nous empêchions à des États d'avoir la bombe atomique et de menacer de l'utiliser dans le cadre de cette obligation que nous avons tous signé, vous y compris les États-Unis, parce que là encore, c'est les États-Unis qui sont visés, vous devriez faire en sorte qu'aucun État ne se dote de l'arme atomique et surtout qu'il ne s'en serve pas comme menace pour ses voisins. Vous voyez tout à fait qui est visé. C'est donc un clin d'œil pour la politique des États-Unis en faveur d'Israël et de son arme atomique. Toujours en restant sur ce domaine atomique, ils en viennent à la question du fameux accord donc, qui a fait tant de bruit, coulé tant d'encre l'été dernier, cet accord entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, où ils disent, attendez,
ça, je m'en rappelle plus
AUKUS, ça s'appelle, AUKUS, Australien, ouais. Ah, c'est un mélange, Australie, ouais. United Kingdom, US, AUKUS, vous avez peut-être lu le sigle quelque part. Et ils disent, c'est très joli, mais l'Australie n'a pas l'arme nucléaire. L'Australie est signataire du traité de non-prolifération. Et en fait, vous êtes en train de l'impliquer dans l'utilisation de matériel nucléaire et de sous-marins à propulsion nucléaire. Et donc, vous êtes en train de l'amener à violer sa signature du traité de non-prolifération. Donc voilà, alors que vous, États-Unis et Royaume-Uni, vous avez signé un texte, le traité de non-prolifération, qui dit que par tous les moyens, vous empêcherez un autre État d'avoir l'arme atomique. Or là, vous la lui mettez quasiment à disposition. Alors, ça veut dire, bon, l'Australie, on en fait ce qu'on en veut, c'est quasiment une colonie. Hein. C'est un pauvre Australien. J'espère que les Australiens vont se réveiller là-dessus. Voilà. Et donc, la Russie, alors, ils en terminent là-dessus, la Russie et la Chine estiment que de telles actions sont contraires aux objectifs de sécurité et de développement durable dans la région Asie-Pacifique, augmentent le danger d'une course aux armements dans la région et posent de graves risques de prolifération nucléaire. Les parties condamnent fermement ces mesures et appellent les participants à l'AUKUS à respecter de bonne foi leurs engagements en matière de non-prolifération nucléaire et de missiles et à travailler ensemble pour préserver la paix, la stabilité et le développement dans la région. Là aussi, ça ouvre toute une série de perspectives pour les temps qui viennent. Et ils en finissent dans la question nucléaire par parler de Fukushima. Pourquoi Fukushima? Vous savez, c'est la fameuse centrale, enfin, la série de groupes nucléaires japonais qui ont donc une panne énorme avec une contamination. Et le projet du gouvernement japonais est de jeter toutes les eaux de refroidissement qui ont servi à arrêter donc, l'explosion des groupes nucléaires dans l'océan. Alors, c'est très gentil, mais on sait que si vous mettez de l'eau très, très contaminée, très radioactive dans l'océan, ensuite, elle se promène, cette eau. Et donc, il y en a pour tout le monde. Et donc, ils critiquent très vigoureusement cette décision japonaise qui, autant que je sache, n'est pas encore en application, de jeter les pollutions qui sont sur son territoire dans la mer pour que tout le monde, si j'ose dire, en profite. Voilà pour la partie la plus touché par la question nucléaire. Ensuite, ils abordent un dernier sujet qui concerne les affaires militaires. Ils disent « Nous nous opposons à la militarisation de l'espace et à une course aux armements dans l'espace. » Alors ça, ils mettent là aussi le doigt sur un problème, c'est-à-dire qu'on sent très bien, et puis il y a des budgets pour ça au Pentagone, on sent très bien qu'à défaut d'arriver à faire peur à la Russie et à la Chine avec leurs armes connues aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'étudier la possibilité de mettre très très haut dans la stratosphère des bombes nucléaires qui pourraient à tout instant éclater, détruire tous les systèmes de communication, donc tous les systèmes de satellites, etc. Bon, donc ça, on sait qu'il y a aux États-Unis un clan, alors appelons ça des faucons pour faire simple, c'est un mot connu, mais qui voudrait bien dépasser les difficultés qu'ils ont au niveau de la Terre dans sa taille actuelle, pour avoir une espèce de couverture stratosphérique qui ferait des États-Unis une menace permanente pour tout le monde et qui pourrait à tout moment couper la totalité des communications des autres pays en détruisant tous les satellites qu'il y a dans l'espace.
Ça, c'est intéressant.
Voilà. Donc, vous voyez qu'ils ont... voilà, ça n'a pas été rédigé sur un coin de table le jour des Jeux Olympiques de Pékin. C'était un travail préparé. Ils en arrivent ensuite, on reste toujours sur des questions militaires, mais je m'y attarde parce que c'est bien de voir qu'ils y ont travaillé et qu'ils ont des positions sur tout. Les parties, ils parlent des armes biologiques et bactériologiques. Les parties réaffirment leur conviction que la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la production et du stockage des armes bactériologiques et biologiques et à toxines et sur leur destruction est un pilier essentiel de la paix et de la sécurité internationale. La Russie et la Chine soulignent leur détermination à préserver la crédibilité et l'efficacité de la Convention. Et ils ajoutent qu'il manque, alors ce qui est connu, il manque à cette Convention un outil de contrôle, Donc ils appellent à la création d'un outil de contrôle, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'en particulier l'armée des États-Unis a des laboratoires de fabrication d'armes biologiques et bactériologiques dans toute une série de pays du monde. Les gouvernements sur le sol desquels sont installés ces laboratoires ne savent pas ce qui s'y fait et il n'y a pas de possibilité de faire contrôler. Et ils disent une convention qui n'a pas de possibilité de contrôle, comme c'est le cas par exemple pour la non-prolifération. Vous savez que dans le cas de la prolifération nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique a le droit et les capacités techniques et scientifiques d'aller visiter des installations nucléaires dans des pays qui sont signataires du traité de non-prolifération. Je pense évidemment à l'Iran, ce qu'ils ont fait abondamment autant de fois qu'ils ont voulu. Par contre, ils ne sont pas allés en Israël, puisqu'Israël n'est pas signataire et que personne ne le critique. Enfin, personne. Au moins pas les États-Unis. Et donc, pour en finir avec cette question des armes biologiques, la Russie et la Chine insistent pour que les États-Unis, en tant que seul État parti à la Convention, qui n'ait pas encore achevé le processus d'élimination des armes chimiques, souvenez-vous bien de cette phrase, accélèrent l'élimination de leur stock d'armes chimiques. Alors je rappelle quand même que à l'occasion, pendant la guerre de Syrie, il y a eu donc un coup monté tendant à démontrer que c'était le gouvernement syrien qui utilisait des armes chimiques. Le gouvernement syrien a dit « c'est pas moi ». Et on a envoyé des inspecteurs de cet organisme de contrôle de la chimie qui ont effectivement... sont venus sur place, ont été accueillis, à la suite de quoi, de toute façon, la Syrie a... décidé d'éliminer la totalité de son armement chimique, qui a été d'ailleurs mis sur un bateau états-unien.
Sur les Américains.
Voilà. Alors tout ça a été brûlé en mer quelque part au large de la Sicile, autant que je me souvienne. Et donc là, on a eu une élimination concrète. Et donc la Syrie, se faisant aller dans le sens du droit général, et il ne reste plus qu'un pays qui ne respecte pas et qui n'a pas éliminé ses stocks, c'est les États-Unis. Alors on voit donc ça a l'air de rien, mais j'ajoute, mais sous un langage qui n'est pas très anti-américain, il y a quand même une série de critiques très très concrètes sur la façon dont les États-Unis essayent de gouverner le monde. Ils en viennent ensuite à un sujet moins connu, mais sur lequel il faut s'arrêter, sur les questions de l'intelligence artificielle et sur la question des technologies de l'information et de la communication. Alors, je ne développe pas, mais si vous pensez, et si vous vous souvenez par exemple, qu'il a été possible d'intervenir sur le contrôle du réseau électrique du Venezuela et d'arrêter la fourniture d'électricité pendant plusieurs heures ou plusieurs jours à la suite d'un hackage, disons, d'un piratage informatique, s'il a été possible de faire la même chose en Iran directement dans les installations de recherche nucléaire de l'Iran, ça veut dire que ce type de piratage se pratique. Et là, ils disent il faut absolument que nous régulions, c'est-à-dire que n'importe qui, à ce petit jeu-là, n'importe qui peut faire n'importe quoi, y compris avoir... Là, c'était des conséquences, disons, sur des cas qui étaient plus discutés, mais ça pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement des hôpitaux, sur le fonctionnement des banques, sur le fonctionnement des gouvernements. Il y a une nécessité d'une coopération internationale et d'un respect mutuel de ces technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire ne violez pas les réseaux des autres. J'allais même ajouter, ils l'ont pas dit, ne faites pas écouter les chefs d'État, même si c'est vos amis, ce qui a été fait, on le sait, par exemple, pour Angela Merkel et quelques autres. Tout ça est acté. Vous voyez qu'on est assez loin quand même dans la profondeur de l'analyse. Et ensuite, il pose toute une série, c'est la quatrième partie du document, j'avance progressivement, il rappelle que tout leur projet s'inscrit dans le respect de la Charte des Nations Unies et de du mode de fonctionnement de l'Organisation des États-Unis, ce qui veut dire donc le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et tout, que s'inscrit dans le cadre général qui est celui de l'ONU de respect de tous les États, c'est-à-dire que les gros États et les petits États ont la même influence, ont le même poids au niveau des décisions. Ça, c'est tout à fait important. Donc, ils disent, et c'est écrit, les forts, les États forts doivent respecter les États faibles. Ça fait partie de la charte. Cette charte aussi, elle ne s'arrête pas à des questions de liberté d'expression. Elle parle du droit à la formation, du droit à la santé. Et tout ça, nous le reprenons à notre compte. Il n'y a rien à jeter dans ce qui a été mis sur le papier entre 1944 et 1945, mais il faut que ce soit respecté. Ensuite, ils parlent, alors ils font un peu d'actualité, c'est-à-dire ils disent les BRICS, ça va continuer, donc ils sont les deux leaders des BRICS et qu'ils ont mis sur pied. Ils disent que, ils rappellent d'ailleurs que la Chine, puisqu'il y a une présidence tournante dans les BRICS, la Chine occupera la présidence tournante des BRICS en 2022. Et ils terminent par un coup de chapeau et un marque d'intérêt commune avec les pays de l'Asie du Sud-Est, qui sont regroupés dans la SEAN. Alors, j'ai consacré une émission à la SEAN. On la connaît assez peu, mais c'est quand même une institution qui regroupe presque 800 millions de personnes, hein, depuis le Vietnam jusqu'à l'Indonésie, la Birmanie, enfin tout le monde est là. Et donc, pour l'approche et la lecture et la compréhension du continent euro-asiatique, eurasien, c'est très important de dire que la SEAN a toute sa place dans le dispositif qui est programmé par la Chine et par la Russie, et que d'ailleurs les relations entre la majorité des États de la SEAN et les pays, donc la Chine et la Russie, sont bonnes et ne font que se développer, que ce soit au point de vue économique, politique, etc. Je donne un exemple, ce qui est très intéressant. Le Laos, par exemple, qui était un des derniers pays communistes très enclavé, replié sur lui-même, etc., vient de s'ouvrir petit à petit, est en train de s'ouvrir au monde, puisque depuis quelques semaines, les trains chinois modernes arrivent directement à la capitale Vientiane, et que de là, le réseau va se continuer vers le Cambodge, vers la Thaïlande, et que donc on a des pays comme le petit Laos, dont personne ne parlait, qui vont se retrouver impliqués dans une économie régionale en développement, avec des partenariats, avec des échanges de personnes, de marchandises, etc., qui vont retrouver un vrai développement indépendamment de leur régime, parce que le Laos n'avait pas beaucoup d'amis à l'extérieur, disons en Occident, puisqu'il était encore dirigé par des communistes. Alors on passe là-dessus. D'ailleurs, ça répond tout à fait à l'introduction qui dit « Nous devons tous nous respecter les uns les autres, quels que soient nos gouvernements. » Et les critiques des gouvernants, je reviens dessus, doivent être faites par la population concernée, pas par un tiers qui a d'autres intérêts que ça. Voilà. Donc ce document est tout à fait important. Il se termine, ou pas tout à fait, par une partie que je vais vous lire. Donc les parties, donc c'est la Chine et la Russie, appellent à l'établissement d'un nouveau type de relation entre les puissances mondiales sur la base du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération mutuellement bénéfique. Ils réaffirment que les nouvelles relations interétatiques entre la Russie et la Chine sont supérieures aux alliances politiques et militaires de l'époque de la guerre froide. L'amitié, écoutez bien ça, parce que je pense qu'à Washington, ça doit un peu poser des problèmes, si j'arrive à comprendre. L'amitié entre les deux États n'a pas de limite. Il n'y a pas de domaine de coopération interdit. Le renforcement de la coopération stratégique bilatérale n'est dirigé ni contre les pays tiers, ni affecté par l'évolution de l'environnement international et les changements circonstanciels dans les pays tiers. Retenez bien ça. Hein. L'amitié entre les deux États n'a pas de limite. C'est-à-dire, ce que nous venons d'écrire là, et sur le détail desquels je me suis un peu arrêté, c'est une espèce de charte pour l'avenir. Ils le disent, c'est pour la communauté humaine dans son ensemble. Voilà ce à quoi nous allons travailler tous les deux. Voilà déjà dans quel sens nous avançons. Et nous voulons que ce soit le mode de relation des pays entre eux sur cette planète aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un véritable tournant qu'ils proposent. Alors, s'ils le font, c'est qu'ils ont déjà avancé dans ce sens-là. L'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS, tout ça, c'était une avancée dans ce sens-là. Mais là, maintenant, ils affirment, hein, l'amitié entre les deux États n'a pas de limite. Sous-entendu, aux stratèges du Pentagone qui disent « on va essayer de les fâcher les uns avec les autres », bon, vous perdez votre temps, messieurs, pensez à autre chose. Voilà. Je voulais développer ces faits. Alors, je signale que ce texte existe en langue française, puisque je me suis appuyé sur cette traduction-là, qu'il fait une dizaine de pages, et qui mérite d'être lu, qui mérite d'être publié, car une fois qu'on a bien réfléchi à son contenu, on s'aperçoit qu'il est en train de tourner une page dans l'histoire des relations internationales et dans l'aventure, et ça c'est un propos que le président chinois a toujours, il l'a redit à Davos, enfin pas à Davos au début de l'année, c'est-à-dire que le problème que nous avons aujourd'hui, nous 7 milliards d'humains, c'est de vivre ensemble sur cette planète dont on vient de se rendre compte qu'elle était petite, que ses ressources n'étaient pas illimitées, qu'il y avait des problèmes communs de pollution, de pandémie, etc. Donc, notre problème d'humanité prise ensemble, c'est un problème de cohabitation. Nous devons organiser les règles de cohabitation sur cet espace commun qui n'est pas si grand que ça, qui n'est pas illimité. Et donc, on doit vivre intelligemment les uns avec les autres.
Et de ne pas faire le bâton du poulailler, vous savez.
Voilà, exactement. Voilà. Et donc, on va passer maintenant un petit enregistrement qui va nous changer, mais pas tellement, mais vous allez voir. Écoutez plutôt ces 6 minutes concernant le Mali et sa monnaie.
Yves Ekwe-Amaizo, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes économiste spécialisé en stratégie et directeur de Afrocentricity, un groupe de réflexion et d'action. Le gouvernement malien a annoncé la semaine dernière qu'il n'a pas été en mesure de s'acquitter des sommes dues fin janvier sur le marché financier sous-régional. Quelles sont les conséquences à court et moyen terme pour le Mali ?
Alors, c'est une question très intéressante. Alors, à court terme, tout de suite pour vous répondre, il faut d'abord préciser des choses. Le Mali est dans une zone économique monétaire qu'on appelle la zone franc, qui veut dire que sa banque centrale, la Banque du Mali, doit déposer une partie de son argent auprès de la Banque centrale, qui se trouve à Dakar, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et cette Banque centrale elle-même gère cette monnaie, franc CFA. Et paradoxalement, beaucoup de gens ne le savent pas, mais quand on doit convertir le franc CFA dans une devise, l'euro, le yuan, le dollar, nous avons besoin de l'autorisation du Trésor français. Donc, de la France. C'est très important à comprendre parce que c'est ça qui va expliquer la réponse à vos questions à court et à moyen long terme. De ce fait, l'argent du Mali est déposé auprès de cette banque centrale et cet argent, d'après nous, nos calculs, en tout cas ce qui a été mis à disposition, le Mali ne devait pas avoir de problème sur 6 à 8 mois à peu près de réserve internationale.
D'autant plus que les autorités ont elles-mêmes expliqué qu'elles ont les liquidités nécessaires pour s'acquitter de ces dettes.
Très juste, absolument juste, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que moi, dans nos calculs à nous, on avait 6 à 8 mois sans problème pour le Mali, sans compter qu'il y a d'autres réserves qui auraient pu permettre de rallonger la période. Donc, cet argent appartient au Mali. Il faut être très précis dessus. Donc, si le Mali, aujourd'hui, ne peut pas payer à court terme, dont je viens sur votre question, ce n'est pas un problème malien. C'est un problème de la Banque centrale qui a refusé, en fait, de laisser l'argent du Mali sortir pour aller payer les différentes prêts, que ce soit des crédits, que ce soit des choses que le Mali doit payer.
Oui, argent donc, retenu par la Banque centrale en application aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA.
Absolument. Alors maintenant, vous avez dit un deuxième élément. Quand vous dites en application des sanctions, là, on a un problème. Parce qu'il n'est prévu nulle part, je dis bien, de faire une obstruction notamment dans les cas d'urgence comme ça. C'est pour ça que le Mali, d'ailleurs, dit que c'est illégal. Bon, à partir de ce moment, c'est vrai, vous avez des conséquences. Le Mali, donc, ne pourra pas honorer tel ou tel engagement. Mais attention, l'argent appartient bien au Mali. Et donc, si la Banque centrale insiste, je vous dis que c'est illégal, donc il faudrait faire un procès. On se demande d'ailleurs devant quelle justice, puisque la Cour de justice de la CEDEAO, puisque tout est suspendu, est-ce que le Mali peut même aller devant cette cour?
Monsieur Amaizo, pardon, permettez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'on peut très clairement savoir, à court terme, qu'est-ce que cela implique pour le Mali, ce refus de déblocage des fonds qui lui appartiennent?
Voilà, si les fonds appartiennent au Mali, comme je vous ai expliqué, et que vous l'avez bloqué, le Mali a deux possibilités. Vous expliquez à un autre partenaire que la France, puisque c'est le fonds, c'est ça le problème, hein, vous expliquez à un autre partenaire que vous avez de l'argent en dépôt qui vous appartient à court terme, qui est bloqué. Si le partenaire étranger a eu un autre que la France vous fait confiance, ben il vous fait un crédit, tout simplement. Donc, de ce point de vue, il faut dire les choses clairement. Le Mali peut être surpris, mais ça m'étonnerait. Vous essayez de me faire dire qu'elle va subir tel ou tel ou tel effet. C'est vrai, mais on subit les effets si on ne fait rien. Le Mali ne va pas dormir.
Si je vous comprends bien, ce blocage des fonds maliens par la Banque centrale pourrait ne pas avoir de conséquences majeures sur le Mali si le gouvernement réagit vite?
Absolument. Ce qui va se passer, le Mali va chercher à trouver d'autres partenaires. Je vous invite à penser à la Chine, je vous invite à penser à
La Russie,
je vous invite à parler à la Turquie, et je vous invite à parler à la plupart des pays arabes, parce que le Mali, on n'oublie pas, c'est un pays musulman. le Mali est un frère des autres, pays musulmans. Et dans ce cas-là, on ne prend pas d'intérêt. Ce qui veut dire qu'on va lui mettre de l'argent à disposition, entre guillemets, à un taux zéro, quelque chose, en tout cas, un taux vraiment modique. C'est-à-dire que le Mali va trouver plusieurs alternatives. Mais le Mali, c'est un État. Donc quand vous dites faire de confiance ou ceci, crédibilité, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est l'État qui est en cause. Vous connaissez la dette des États-Unis. La France est à 115% hein, de dette. Et pourtant, personne ne met en cause la crédibilité de la France, puisque la France est prête à payer. Dès que les conditions iront mieux, elle se débrouille pour vous payer. Sur la crédibilité, je pense qu'il n'aura aucun effet. Parce que c'est un État qui s'engage. Donc l'État va trouver un moyen pour honorer, en tout cas les engagements les plus urgents à court terme, voire à moyen et long terme. Et même trouver carrément une alternative. Ça peut aller très loin. Hein. Ça peut être le début de la sortie du franc CFA. Je vous rappelle que la Mauritanie est sortie du franc CFA.
Donc cette crise pourrait apparaître comme une opportunité pour le Mali de quitter la zone CFA.
Justement, moi je ne parle pas d'opportunité, mais je parle même d'effet de levier. C'est-à-dire que le résultat que ceux qui ont fait ça veulent obtenir va être le contraire. Va être le contraire. On n'est pas dans la situation ivoirienne avec M. Gbagbo qui n'avait pas anticipé. On n'est pas dans la situation ivoirienne où M. Gbagbo n'avait pas signé d'accord ni avec la Russie, ni avec l'Afrique du Sud, qui lui donnait une aide militaire à l'époque. Nous sommes dans une nouvelle situation où le Mali a anticipé ce que fait la France. Et elle a donc des accords militaires avec la Russie, des accords militaires avec d'autres pays. Et c'est ce qui lui permet. Comment voulez-vous savoir si quelqu'un rentre dans votre territoire si vous n'avez pas des satellites adaptés pour le savoir? Ce n'est pas le Mali qui a ses satellites, donc c'est bien quelqu'un d'autre qui l'aide. Et ça ne se fait pas gratuitement. Ça veut dire que le Mali a engagé sa crédibilité. On revient sur votre mot pour cela. Bien sûr, ça peut se monnayer. Il y aura tel ou tel ou tel aspect que le Mali devra payer, des mines ou autres. Mais écoutez, la France ne fait pas mieux et d'autres pays ne font pas mieux. On est dans la politique, hein, donc c'est donnant-donnant.
En somme, vous dites, M. Amaïzo, que le Mali a plusieurs plans B.
Je dirais que le Mali a le plan B, le plan C et le plan D.
Yves Ekwe Amaïzo, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Économiste spécialisé en stratégie et directeur de Afrocentricity, groupe de réflexion et d'action.
Une explication très claire sur la situation financière du Mali dans le cadre donc de la zone CFA. Puisque donc une décision prise par la France et donc couverte par les chefs d'État de la CEDEAO, Alassane Ouattara en tête et quelques autres, on veut priver le Mali de sa capacité à avoir. Alors, j'explique bien, parce qu'un État, quel qu'il soit un État de cette zone franc, qui veut, par exemple, régler une dette en dollars, il n'a pas de dollars dans sa caisse. Quand il veut des dollars, il faut qu'il demande à la France, au Trésor français, de mettre des dollars en compensation de la valeur des francs CFA qu'il a, à sa disposition pour payer ses dettes. Il y a donc là une tutelle permanente, et c'est ça qui est en cours. C'est-à-dire que pour l'instant, la France ne voulant pas payer les dettes du Mali, qui sont peut-être en dollars auprès de je ne sais qui, c'est probablement des dollars. Mais donc la France, en fait, met le Mali en situation de non-paiement, de défaut de paiement, alors qu'il a l'argent dans la caisse. C'est ça la domination du CFA. C'est une tutelle totale. Vous n'avez, un État qui a le franc CFA n'a pas de capacité internationale à faire du commerce. Il doit toujours passer par un monsieur, un agent de change, qui lui dit « Ah ben, je vous donne des dollars, je vous donne des yuan, je vous donne tout ce que vous voulez, mais c'est moi qui vous les donne, vous ne les avez pas vous-même. » C'est ça qui est très, très...
C'est cette banque centrale voilà. Qui se trouve au Sénégal.
Voilà, c'est la banque centrale, mais qui, en fait, est liée au Trésor français.
Voilà.
C'est très important à rappeler, donc c'est bien expliqué. Et ce qui va se passer, effectivement, c'est que le Mali va demander une aide ailleurs, et contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres cas, parce qu'il fait allusion à la Côte d'Ivoire qui s'est fait prendre, enfin, qui a été prise à ce piège-là au moment où la France a décidé de se débarrasser du président Gbagbo, donc au début de l'année 2011, ce qui s'est passé, c'est que là, le Mali a prévu l'opération. Et donc, il a déjà des relations avec d'autres pays qui, à ce moment-là, viendront l'aider en disant « Vous devez tant de millions de dollars, eh bien, je vous prête la même somme et puis vous me rembourserez. Puis vous pouvez rembourser, je connais l'état de vos finances et donc vous pouvez rembourser, il n'y a pas de souci. » Et donc, il y a un État ou des États qui vont en fait permettre au Mali de court-circuiter le circuit du CFA et de court-circuiter le Trésor français en disant « Vous ne voulez pas me donner l'argent auquel j'ai droit, ça fait partie de nos règles, vous me boycottez, vous mettez des obstacles, je me débrouille autrement. » C'est ça qui est en train de se passer. C'est tellement intéressant comme tentative d'émancipation d'un pays ex-colonisé qu'on sait maintenant qu'au moment de l'entretien de M. Macron et de M. Poutine à Moscou, il y a de ça quelques jours, on dit quand même que l'entretien a duré 6 heures.
Ouais.
Donc ça veut dire que M. Poutine n'a pas éconduit M. Macron et que je pense aussi M. Macron l'a écouté, probablement attentivement, je le suppose. Et ils ont reconnu l'un et l'autre, quand ils ont fait les conférences de presse habituelles à la fin de leur rencontre, qu'ils avaient parlé du Mali. Ils avaient parlé très clairement du Mali. Et il avait été tout à fait question, puisque M. Macron est probablement arrivé en accusant la Russie d'avoir des troupes au Mali. Et Poutine a répondu devant les journalistes tout à fait clairement, non, le Mali est un État souverain, le Mali a passé des contrats pour assurer un certain nombre de protections d'installations clés de sa République qui considérait comme étant en péril, et donc effectivement ils ont trouvé un contractant russe qui librement a mis du personnel à leur disposition. On sait en particulier que dans un certain nombre de bases qui ont été créées dans le cadre de l'opération Barkhane par l'armée française, entre autres à Tombouctou, eh ben les contractuels donc de Wagner, de cette groupe russe, sont venus là et tiennent la base. Ils ont pris la place des militaires français et ils tiennent la base parce qu'ils ne veulent pas que la base, et le gouvernement malien officiel ne veut pas que cette base tombe entre les mains des terroristes. Et donc ça a été parfaitement clair. Et on n'est pas, côté français, on n'est pas revenu là-dessus. C'est-à-dire que je pense que dans les 6 heures d'entretien, c'est pas rien tout à fait 6 heures d'entretien, il a été fortement précisé les positions et que M. Macron n'a pas pu sortir de là en disant « la Russie interfère dans les affaires maliennes ». Non, il y a une société russe, ça aurait pu être une société chinoise ou une société privée, ouais, qui a signé un contrat pour protéger un certain nombre d'installations stratégiques que le gouvernement malien veut protéger et que l'armée française n'arrivait plus à protéger, n'était pas tout à fait à la hauteur de ses ambitions. C'est ça qui est tout à fait clair et qui est très très important. Au passage, puisque j'en suis à parler de l'entrevue de Moscou, il faut savoir que la grande table dont on a beaucoup parlé, que vous avez beaucoup vu, n'était pas une insulte au chef de la République française, puisqu'elle avait été utilisée par d'autres. C'est une façon, dans le cadre des mesures de protection par rapport à la pandémie...
Elle a été utilisée pour le ministre...
Pour le président iranien, même.
Et pour d'autres.
C'est une façon de permettre à deux personnalités de se parler sans masque, sans avoir subi de test les uns et les autres, avec le minimum de risque. C'est rien de plus que ça, mais ceux qui ont voulu dire M. Poutine a humilié M. Macron n'étaient pas renseignés, puisque en fait, c'était un dispositif lié à la protection contre l'épidémie qui était déjà en fonctionnement. Voilà pour cet épisode malien. Mais ça m'amène à dire 2-3 mots quand même sur la Mauritanie, dont on a entendu parler, puisque la Mauritanie est un des États qui était donc dans la zone française de colonisation, qui est sorti du franc CFA, alors il y a quelque temps, puisqu'ils sont sortis, la Mauritanie est sortie en 1973, ce qui est longtemps. Et il y a maintenant une monnaie mauritanienne qui s'appelle le Ouguia, je le prononce peut-être pas très bien, qui a donc l'avantage d'être une monnaie qui a cours. Et ça veut dire, pour comparer ça à ce qui vient d'être dit sur le Mali, ça veut dire que si le gouvernement mauritanien décide de souscrire un prêt en dollars auprès d'une banque, un prêt en livres sterling auprès d'une banque anglaise, il le fait, et il le fait sur la base d'un cours qui est dans les contrats entre sa monnaie, et il le fait librement dans sa monnaie et la livre sterling. Il est maître de sa monnaie, et il est maître de son commerce extérieur. Il peut acheter où il veut, avec la monnaie qu'il veut, dès l'instant où la personne qui lui prête accepte d'être payée avec la monnaie mauritanienne. Le franc CFA, c'est le franc des Français. Et donc, il faut que tout commerce extérieur... Alors, il faut, le franc CFA, c'est même pire que ça, puisque en fait, il y a 2 francs CFA, je ne développe pas là-dessus. Il y en a un pour l'Afrique de l'Est et un autre pour l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas les mêmes. Donc, on a une fabrication qui fait que tout passe par Paris et que les échanges, même entre 2 pays membres de la zone CFA, n'ont pas de sens, puisque tout passe par Paris. Et j'en arrive, puisque je vois que l'heure approche, j'en arrive à vous parler un peu de l'Ukraine. À vous parler un petit peu de l'Ukraine rapidement. Alors, le point de la situation. Alors, il y a eu énorme agitation médiatique. En même temps, il est clair que M. Macron a entendu un certain nombre de choses de la bouche de M. Poutine qui l'ont amené à réfléchir. Alors, on a tout à fait l'ambiguïté du personnage qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire qu'il doit comprendre ce qu'on lui dit, hein, mais il continue, quand il a fini son entretien, il continue à dire qu'il a la solution et qu'il a raison. Hein. Mais au fond, je pense qu'il a compris, puisqu'il y a eu un changement de ton quand même, pas dans les médias, parce que les médias français sont catastrophiques là-dessus, ils jouent complètement la symphonie américaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que M. Macron donc, a intégré, je pense, un certain nombre de données, a compris ce qu'était le message. Il y avait deux messages. Les accords de Minsk, ça existe, vous les avez signés, il faut les faire respecter. Et deuxièmement, s'il y a une guerre que nous ne voulons pas, je parle pour les Russes, s'il y a une guerre que nous ne voulons pas en Ukraine, la bataille se passe sur le sol européen. Et donc les Américains font monter la température, envoient des troupes, etc. Et en fait, le combat aura lieu chez vous, les conséquences économiques, sociales, politiques seront chez vous et pas pour les Américains. À quoi jouez-vous ? Bon. Ça, c'est un raisonnement élémentaire. C'est tellement compris par un certain nombre de dirigeants européens que le nouveau chancelier allemand, M. Scholz, après avoir rencontré le président ukrainien, a déclaré, lui, et c'est tout à fait important, la question de l'adhésion de l'Ukraine n'est pas sur la table. Ça veut dire, c'est très précisément ce que demande la Russie. Donc il passe plusieurs heures avec le président ukrainien et il sort de là en disant « la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas sur la table ». Ça veut dire que le casus belli, c'est-à-dire ce qui met la Russie en crainte, à juste titre, pour son avenir, n'est pas en cause. Ce qui veut dire que M. Zelensky est en train de se rendre compte qu'on veut lui faire porter un chapeau beaucoup trop grand pour lui. C'est-à-dire qu'on veut que la guerre entre les États-Unis, la guerre que veulent les États-Unis avec la Russie, soit se passe sur un terrain qui est son pays à lui. Ça se passe à un autre. Voilà. Et ça, il ne le veut pas. Alors ça, il ne le veut pas, mais il faut quand même voir qu'il n'a pas que des amis et que tout se passe pour qu'il puisse, à un moment donné, disparaître de la scène politique. Je prends un dernier exemple avant de finir là-dessus. L'ambassade des États-Unis à Kiev vient d'être déménagée à Lvov. Lvov, c'est la plus grande ville de l'ouest ukrainien. C'est le territoire central des fascistes ukrainiens. C'est à quelques kilomètres de la frontière polonaise. Oui. Hein? Et ça veut dire qu'il y a la préparation, quelque part, d'un gouvernement de rechange à M. Zelensky, qui serait un gouvernement d'extrême droite entre les mains des États-Unis. Alors M. Zelensky le sait. Donc en même temps, il dit qu'il n'a pas de crainte d'agression russe, puisqu'il l'a dit lui-même. Et puis il fait ce qu'il fera demain, puisque vous savez... Alors je finis là-dessus. Vous savez qu'il a été annoncé que c'était demain que la Russie attaquait l'Ukraine. Hein, puisqu'il a même été dit c'est avant la fin de la semaine olympique, donc avant vendredi, donc il reste que mercredi et jeudi, donc c'est déjà annoncé, c'est pour demain. Alors Zelensky, qui est bien embarrassé parce qu'il veut pas que la guerre ait lieu, surtout pas chez lui, a dit ah ben aujourd'hui, demain ce sera une grande journée d'union du peuple, on mettra les drapeaux aux fenêtres, etc. Il essaye de se rattraper, de donner un petit tour patriotique, mais il sait très bien que ses jours politiques sont comptés, au moins vu du côté de Washington, mais il n'a probablement pas envie, aussi inexpérimenté qu'il soit en politique, il n'a probablement pas envie que ce soit son pays à lui, dont il est pour l'instant le président, qui fasse les frais de cette énorme campagne d'intoxication qui est en cours sur la question ukrainienne. Voilà ce que je voulais dire.
Que beaucoup de soldats russes ont regagné leurs casernes.
Tout à fait, oui. Les manœuvres sont finies. Voilà. Merci Yamine.